écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui vous aide à mieux comprendre l'économie mondiale. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Il y a de l'ambiance sur la Côte d'Azur, à Nice, son hôtel Méridien, le long de la sublime promenade des Anglais où se tenait cette semaine le Choiseul Africa Business Forum. C'est un événement consacré chaque année à l'investissement, aux opportunités d'affaires sur le continent. De nombreux acteurs de l'économie africaine réunis ici pour offrir des perspectives, en particulier à la jeunesse, que l'on sait nombreuse, dynamique, mais souvent inquiète. Et elle a souvent raison, inquiète de ne pas trouver un emploi stable. Une bonne formation ne garantit pas un bon salaire et forcément, les incertitudes actuelles et mondiales liées à la pandémie de Covid ne favorisent pas la confiance. Comment améliorer l'employabilité en Afrique pour les jeunes hommes et les jeunes femmes? Comment faire émerger les talents? Le rôle de l'enseignement supérieur, des pouvoirs publics et du secteur privé? La formation professionnelle? Comment éviter la fuite des cerveaux? Quel rôle pour les institutions internationales? L'aide au développement? Beaucoup de questions pour nos trois invités qui ont participé à ce Choiseul Africa Business Forum et que je salue. Naye Batili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fois sénégalaise et britannique. Vous êtes la chef des relations extérieures pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale. Parmi vos priorités, la santé, l'alimentation, l'éducation, et vous avez d'autres responsabilités pour soutenir les femmes d'affaires et les entrepreneuses en Afrique. Bonjour également à Patricia Viringa Guisques.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de The Job Factory. C'est une société spécialisée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans les ressources humaines. Vous êtes aussi administratrice au patronat congolais et à l'Institut national de préparation professionnelle. Vous faites donc le lien entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Il nous fallait justement un patron, le voilà. Eric Amoussouga, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la branche Afrique francophone de General Electric, GE, l'une des plus grandes entreprises industrielles au monde, plus de 200 000 employés dans les secteurs de l'énergie. Bienvenue à tous. Cette émission, nous la dédions naturellement à Stanislas Daichimier, notre collègue du service économie de RFI, décédé samedi dernier. Ses obsèques ont eu lieu hier à Paris. Nous pensons très fort à sa famille, ses amis, ses proches. Vous avez été nombreux, auditeurs, à saluer sa mémoire, ses qualités professionnelles au service de l'information économique. Les questions d'emploi en Afrique, il les connaissait parfaitement. Nous lui rendrons hommage à la fin d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Et avant de démarrer notre débat, je vous propose d'écouter un court témoignage, celui d'une jeune centrafricaine. Elle s'appelle Solange Bago, elle a 21 ans, elle étudie la gestion. Quant à son avenir, elle ne sait pas trop.
Je cherche d'abord un stage académique, mais pour avoir même ce stage, c'est impossible dans ce pays parce qu'il n'y a pratiquement pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien à faire. On n'a pas de boulot, on n'a pas de stage pratique, on n'a rien. Mais alors, à quoi bon d'aller à l'école? Je vois des gens qui sont au master, qui continuent toujours de chômer. On ne va pas rester des éternels étudiants, des éternels enfants que les parents doivent en prendre soin. On est encore comme un poids pour les parents, alors que nos parents ont investi dans nos études pour qu'à la fin, on puisse leur venir en aide. Quand on va à l'école, on doit avoir du travail à faire afin de se sentir utile pour la société.
Un témoignage recueilli pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, par Charlotte Cosset. Ça fait un peu mal d'entendre ça, Naye Batili. On sait que la situation en RCA est particulière, mais cette situation, elle existe un peu partout sur le continent. La recherche de stage, d'abord.
Oui, tout à fait, Bruno. C'est vrai que quand on entend cette jeune fille, on est tous interpellés et préoccupés. Et la Banque mondiale est très mobilisée en République centrafricaine. Nous avons des investissements très importants dans tous les domaines et notamment dans le domaine de l'éducation. Et très récemment, d'ailleurs, le vice-président Ousmane Diagana était sur place et il a rencontré des jeunes comme elle. Et nous mobilisons pour ces jeunes filles parce que ce sont, moi je dis, ce sont, elles sont, elles sont, elles sont, ils sont pas le futur de l'Afrique, mais le présent de ce continent. Et donc, nous avons la responsabilité aujourd'hui de les accompagner dans les choix d'études. Mais c'est là où il est important et essentiel de choisir des filières qui sont porteuses, des filières qui peuvent vraiment, dans lesquelles on peut vraiment trouver des emplois et des emplois rapides, mais des emplois aussi durables. Et c'est souvent le grand problème, c'est le choix des filières. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs dans quel domaine elle s'est investie.
Elle est dans la gestion. On va y venir. Patricia Viringa, Guesquès, en Afrique, on l'a entendu, hein, les jeunes ne travaillent pas que pour eux-mêmes, ils travaillent aussi pour aider leurs aînés. Les difficultés pour trouver un emploi, ça a des conséquences sur l'ensemble de la société.
Oui, tout à fait. Enfin bon, peut-être une précision, quand on dit qu'en Afrique, on ne travaille pas que pour soi-même, mais pour aider aussi, mais je pense sous une autre forme, c'est ce qu'on fait en Europe aussi, à partir du moment où les jeunes travaillent, ils cotisent, et avec ces cotisations-là, on paye les pensions, donc les formats sont les mêmes, peut-être définis différemment, mais c'est exactement la même chose. Et je pense que c'est d'ailleurs la problématique qu'on rencontre maintenant, mais bon, on ne va pas s'étaler sur l'Europe, on est là pour parler de l'Afrique. Et donc, oui, les jeunes ont besoin de trouver de l'emploi, ont besoin que ou on crée de l'emploi pour eux ou qu'eux-mêmes en créent. Et on parle beaucoup d'employabilité, c'est très bien, mais le principe de l'employabilité, c'est de pouvoir se former. Se former coûte de l'argent. Où est cet argent pour les jeunes? Et je suis contente d'avoir la Banque mondiale en face de moi parce que je suis du secteur privé, je suis un opérateur économique et je constate que... Et je salue les efforts qui sont faits parce qu'il y a des réels efforts au niveau des institutions, au niveau des gouvernements. Mais je crois que ça n'est quand même toujours pas assez et que malheureusement, ça n'est pas toujours très bien dirigé. Je ne sais pas pourquoi les institutions ne veulent pas travailler de façon directe avec le secteur privé. J'insiste sur le façon directe avec le secteur privé.
On va discuter plus tard du rôle des institutions internationales. D'abord, la parole à Eric Amoussouga. On a entendu dans ce témoignage trop peu d'entreprises en République centrafricaine. Le tissu économique, c'est ça qui permet de faire des stages et donc d'aller vers l'emploi.
Écoutez, cette jeune fille a tout à fait raison. Il y a une vraie responsabilité, une adéquation à créer, comme le disait madame, entre le besoin et les formations. C'est là tout le nœud du problème. Il y a cette réalité, d'une part, il y a un besoin dans ce pays, il y a un tissu économique, et ce tissu économique est le cœur, doit être le moteur pour accéder à l'emploi. Dans certains pays, donc notamment la Centrafrique, d'où est originaire cette jeune fille, on sait très bien que le tissu économique est faible. Et dans ce genre de contexte, on a une seule voie, les jeunes sont obligés de s'auto-employer, d'essayer de se débrouiller avec des petits commerces. Et c'est qu'on doit passer à un autre niveau. Mais c'est quelque chose qui doit aller avec le secteur privé et le contexte global du pays qui doit offrir les opportunités et le cadre pour le privé de s'installer, de se développer. Donc il y a un vrai travail d'équipe à faire au niveau de la formation, de l'adéquation de la formation, du cadre pour permettre au secteur privé. Parce qu'il ne faut pas oublier, disons-le clairement, le secteur privé est là pour faire des bénéfices, pour générer de la richesse. Donc, si les conditions sont créées pour que ce secteur privé se développe, s'installe, on va automatiquement avoir des opportunités pour ces jeunes qui, aujourd'hui, ont besoin de travailler.
Patricia Viringa, Guesquès, le marché de l'emploi n'est pas totalement adapté aujourd'hui par rapport à ce qui existe, par rapport à la jeunesse africaine ?
Le marché de l'emploi pas adapté, c'est un marché de l'emploi. Donc, ça veut dire que l'emploi, à la limite, peu importe comment c'est fait, mais on parle du secteur privé, et je vous ai dit, je suis du secteur privé, mais je pense que dans la majorité de nos pays, en général, n'oublions jamais que l'État est quand même le premier employeur. Et c'est partout pareil. Nous, on fait notre part, nous, on crée de la richesse, et donc, du coup, on crée des emplois, mais en fait, il faut aussi une adéquation entre les uns et les autres, particulièrement quand on parle de stage. Comme disait la jeune fille, on n'a pas de stage. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de stage ? Où en Afrique, en général, il y a des accords de fait entre les universités, le secteur privé et le gouvernement par rapport aux stages. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, on ne fait pas, mais pourtant on en parle. Mais il y a des solutions en fait. Il y a réellement des solutions. Et je sais qu'en tout cas au niveau de Job Factory, c'est plusieurs fois ce que j'ai tenté de faire en créant ce relationnel entre les trois. Donc, si nous travaillons ensemble, nous allons en fait permettre qu'il y ait nettement moins de chômage. Même sous la forme de l'auto-emploi, parce que l'auto-emploi, c'est aussi facile à dire. Mais est-ce que tout le monde a la capacité réellement d'être un indépendant au niveau du travail? Est-ce que tout le monde peut le faire? Parce qu'on en parle. Ce n'est pas parce que des gens dans l'informel se débrouillent à vendre du sucre, du pain ou autre qu'ils vont développer une entreprise avec cela. Donc voilà, et c'est là qu'on revient de nouveau à de la formation. Mais la formation a un coût. Et bien souvent, ce coût est pris en charge en fait par le secteur privé.
Naïeb Attili, vous êtes d'accord à cette inadéquation?
Oui, l'inadéquation, c'est évident. Et je pense que c'est vraiment le moment de bâtir un nouveau contrat social avec les populations dans le domaine de l'éducation. Et vraiment, il faut qu'on arrive vraiment à que l'éducation, le système éducatif soit beaucoup plus adapté aux réalités et aux besoins de nos pays. Et moi, je regarde, je me dis, il nous faut aller vers des formations rapides, des formations courtes, mais des formations bien ciblées. Il nous faut, par exemple, on a besoin de plus d'électriciens, on a besoin de plus de soudeurs, on a besoin de garagistes, mais bien formés aux méthodes électroniques. Et surtout, le numérique aujourd'hui, avec la pandémie, offre des opportunités incommensurables. Donc, c'est vraiment le grand défi, c'est vraiment celui de la formation. De la formation moi, je dis, on est quand même en Afrique aujourd'hui, on continue à avoir ce mythe-là de certains métiers, le médecin, l'avocat. On n'a plus besoin d'avoir autant d'avocats, autant de médecins. Mais on a besoin, par exemple, de plus de psychologues. Donc, on a plus de 100 millions de personnes qui sont en dépression sur le continent. Donc, on a besoin, par exemple, dans les industries créatives, de développer, ce qui ne sont pas que pour du récréatif, mais aussi de développer et un vrai marché ici à prendre. Donc de développer ce qu'on appelle des « soft skills », et des formations, encore une fois, pointues et rapides.
Donc mieux orienter les jeunes aspirants à l'emploi. On va entendre ces jeunes qui sortent du baccalauréat, on va les entendre à Madagascar, dans le contexte économique que l'on sait, avec en plus la pandémie de Covid-19. Un reportage de notre correspondante Laetitia Bezin, tourné il y a quelques semaines, avec des nouveaux bacheliers dans un salon étudiant. Ils ont beaucoup de mal à choisir leur voie.
Ils sont des centaines à se presser autour des différents stands d'établissements d'enseignement supérieur. Après quelques minutes de discussion avec les responsables d'une école de gestion, brochures et dépliants dans les mains, Nanjin ne repart pas sereine.
Je suis très angoissée car en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ne recrutent plus. Donc c'est très difficile de faire un choix.
Renoncer à son projet initial à cause de la crise du Covid-19 et adapter son choix en fonction du contexte économique, c'est ce que pense faire Karen, 18 ans.
J'ai eu mon bac l'année dernière, mais à cause du Covid, j'ai laissé tomber mes études de tourisme. Le secteur est complètement à l'arrêt. C'est difficile de se projeter. C'est très flou pour moi l'avenir parce que j'aime beaucoup le tourisme, mais je me sens obligée de changer de voie.
Anthem, bac scientifique en poche, a le sentiment de faire partie d'une génération qui doit redoubler d'efforts.
Je pense que ce sera très difficile pour nous de trouver un emploi, d'autant plus que tout le monde dit que nous sommes la génération bac Covid-19 qui a eu un cursus scolaire perturbé. J'ai peur que quand nous allons chercher du travail, on ne nous embauchera pas parce qu'on dira qu'on a un niveau inférieur aux autres.
Les dernières statistiques du BIT qui datent d'avant la crise du coronavirus indiquaient que 20% des jeunes diplômés malgaches étaient sans emploi. Laetitia Bezin, Talanari, vous, RFI.
Une génération Covid-19. Patricia Veringa Guesquès, vous ressentez ça à Kinshasa, cette génération dans le flou?
Dans le flou, oui, parce qu'en fait, après, ils ne savent plus tellement ce qu'ils doivent faire. Ils étudient, c'est pas bon. Ils étudient pas, c'est pas bon non plus. Donc, il y a, comme je dis, il y a un réel problème d'accompagnement et d'orientation. Moi, je l'ai constaté parce que nous donnons beaucoup de formations. Donc, The Job Factory a donné beaucoup de formations au sein des universités même. Et il y a de nouveau un très, très grand problème en termes d'orientation aussi. Parce qu'en fait, les gens font des études sachant pas trop sur quoi ça va déboucher, mais bon, ils font des études, ce sera déjà ça. Or c'est pas ça. Aujourd'hui, nous, d'ailleurs, la majorité des formations que nous avons pratiquées pendant X années, c'était des jeunes universitaires, mais en fait, qui n'avaient pas un métier en main. C'est paradoxal ce que je dis, mais ils n'avaient pas de métier en main. Donc, du coup, on les formait, comme disait madame, on a fait des formations courtes, percutante de métier d'assistant, je dirais, et ça a permis qu'ils aient directement du travail. Et ce sont des formations qui durent entre 2 à 3 semaines, mais après, on a été confrontés au problème du coût. Peu importe le coût le plus bas qu'on mettait, à un moment, les jeunes ne savent pas payer. Donc, de nouveau, comment on fait ? Voilà pourquoi, en introduction, je parlais de pourquoi est-ce qu'on n'assiste pas le secteur privé de façon directe, parce qu'au moins, nous, on sait ce qu'il faut et on tient à créer cette adéquation entre la connaissance et ce qu'on va faire en fait au niveau du bureau, au niveau du travail réellement. C'est ce que nous faisons puisqu'on connaît le besoin.
Erika Moussouga, vous avez les moyens, vous êtes une grosse entreprise General Electric pour former les jeunes.
Effectivement, je pense qu'on a notre part de responsabilité. Mais avant tout, j'aimerais reposer un peu le contexte. Si on repart de la base, c'est-à-dire que aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas un secret, l'énergie est un secteur important. Tout ce qui est agro et transformation, industrie sont des secteurs importants. Et là où les entreprises vont chercher demain à prospérer, vont être ces secteurs. En face, qui peut répondre à ce besoin ? C'est-à-dire que les jeunes qui sont formés, est-ce qu'ils ont la capacité aujourd'hui de répondre à ce besoin ? Donc effectivement, le secteur privé doit arriver avec le gouvernement à tisser un partenariat. On voit un peu le principe de l'alternance. Émettre les besoins, avoir une planification des besoins, avoir ce pont avec le gouvernement et surtout les universités. J'aurai peut-être l'opportunité de vous donner des exemples de ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire dans ce cadre-là. Un pont avec les universités pour donner les formations dont on a besoin. Parce qu'il y a un réel problème, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais vous savez, les gens sont très bons en théorie et pas très bons en pratique quand ils sortent de l'école. Et c'est encore plus vrai en Afrique. C'est-à-dire que quand on m'envoie un CV, je passe un entretien, le CV, il est juste extraordinaire. Mais dans les faits, au bout de 2-3 questions, on voit que c'est un vase creux. Et ça, c'est un réel problème parce que le jeune est persuadé qu'il est bien formé. Il est persuadé qu'il a tous les atouts et en fait, il a tout à faire. Et pour une entreprise privée qui doit générer du profit, qui doit être immédiatement opérationnelle, va pas aller vers ce type de profil. Donc on a un intérêt, nous, entreprise privée, secteur privé, on a un intérêt à anticiper nos besoins pour recruter les bons profils. Pourquoi ? Je vais vous donner une raison purement économique. Ça me coûtera beaucoup plus cher de faire venir un expat pour une compétence donnée que d'avoir un jeune local. Hein, déjà formé et prêt à intervenir, proche de mon client, réactif.
Il y a quand même des compétences parfois très pointues qu'on est obligé de chercher ailleurs, non ?
Alors, c'est en train de devenir de moins en moins vrai. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité d'avoir toutes les compétences, mais encore une fois, il faut de l'expérience. Alors, aujourd'hui, on commence à avoir des gros projets d'infrastructure, mais ces projets ont moins de 10-15 ans. Donc, il faut derrière une entreprise et qui a été confrontée à ce type de projet pour avoir un jeune ou des aînés qui ont cette expérience. Et pour revenir au problème de l'expérience, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de cibler ces secteurs. Je parlais d'industrie, je parlais d'énergie, je parlais d'agriculture, de cibler ces secteurs pour, justement, avec les universités, avoir ce type de formation. Madame disait juste avant que le métier phare, c'était médecin, avocat. Je pense qu'il faut aussi casser ce mythe. Il faut arriver à offrir, en fait, des gens et des formations qui sont en adéquation avec le besoin des privés.
Naïe Batili, il faut aller plus loin que savoir faire un CV. Il faut aussi savoir réseauter, comme on dit. C'est le cas peut-être encore plus pour
Absolument.
Les jeunes filles africaines.
Oui, c'est indispensable. Il faut se réinventer. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Cette pandémie, finalement, nous offre beaucoup d'opportunités. Moi, je pense que c'est le moment pour de penser à faire les choses différemment, de penser à travailler différemment, parce que nous avons été confrontés, nous avons tous appris à travailler différemment pendant ces 2 dernières années. Donc, pour ces jeunes, on doit aussi leur donner une deuxième chance. C'est leur donner des opportunités aussi de stage, parce qu'on ne peut pas avoir d'expérience tant qu'on n'en a pas, on n'a pas essayé. Donc, il faut aussi que les jeunes tentent d'autres métiers. Je l'ai entendu, une des jeunes filles voulait faire du tourisme. Bah, d'accord, peut-être pas du tourisme pour l'instant, mais pourquoi pas dans les changements climatiques. Avec les changements climatiques, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Les énergies renouvelables, il y a des nouveaux domaines qui se créent. Et le numérique, je ne le dirai jamais assez, le numérique quand même permet de faire tomber vraiment toutes les barrières. C'est vraiment le moment de saisir cette opportunité. Et c'est aussi le moment pour qu'il y ait plus de jeunes filles. Parce que, encore une fois, pour moi, au niveau personnel, je me bats pour qu'il y ait plus de jeunes filles qui continuent leurs études, qui poursuivent leurs études, des études supérieures, parce que c'est absolument indispensable qu'on ait une équité à ce niveau de l'éducation. C'est absolument fondamental.
Patricia Viringa Guesquès, il y a un progrès de ce point de vue-là? Est-ce que les jeunes filles vont plus loin dans leurs études par rapport à il y a quelques années?
D'après les statistiques, un peu de la Banque mondiale, un peu des Nations unies, un peu de l'OIT aussi, oui, il y a eu une progression, bon, qui reste quand même toujours minime, mais il y a quand même une progression, donc tant mieux. Mais après, je crois que, de nouveau, c'est de nouveau à la société, à l'État, en partenariat avec ses mandants qui sont donc par exemple le secteur privé, c'est aussi à eux de pouvoir préserver, parce que je le sais de l'Europe, c'est que les jeunes femmes étudient, souvent elles sont plus nombreuses au niveau de l'université, et puis après on ne va pas les retrouver sur le monde du travail. Pourquoi ? Mais parce qu'après ben, on doit faire des enfants. C'est encore quelque chose qui nous est exclusif, j'ai envie de dire. Donc on doit faire les enfants, donc il y a un drop-out. Alors il y a cet accompagnement-là qui est nécessaire. Il faut pouvoir rassurer ces jeunes filles, jeunes femmes après. Il faut pouvoir rassurer, et ça c'est toujours mettre des mécanismes en place pour qu'elles puissent partir un peu, parce qu'en fait, je crois qu'on a les enfants un rien plus jeune en Afrique. Et donc, du coup, ça veut dire que si la jeune femme a des enfants, je sais pas, à 24 ans, à 23 ans, à 25 ans, en fait, après, elle ne trouve plus de travail.
Le processus, il est cassé.
Exactement. Et donc, du coup, après, il y a un problème d'expérience. Et de nouveau, même cet accompagnement-là n'est pas fait sur terrain. Donc, du coup, ce sont des choses qu'il faut faire. Donc, en fait, il faut commencer à avoir des approches très, très pragmatiques. Il faut arrêter les beaux discours et beaucoup de rapports. À un moment, il faut juste faire les choses en disant, voilà, on fait ça comme ceci, on se donne telle et telle période pour avoir réalisé la chose. Et puis, voilà, donc il faut arrêter les discours et vraiment être très, très, très pragmatique.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, comment relever le défi de l'employabilité en Afrique pour les jeunes? On en parle ici à Nice au Choiseul Africa Business Forum.
Éco d'ici, éco d'ailleurs sur RFI.
Avec nos invités que je présente à nouveau, Naye Anabatili de la Banque mondiale, Erika Moussouga de General Electric, directeur de la branche Afrique francophone, et Patricia Viringa Guesquès, directrice générale à Kinshasa de The Job Factory. Le financement des entreprises, justement, pour aider les jeunes à se lancer, les petites et les moyennes entreprises. Est-ce que dans un pays comme le Bénin, par exemple, Erika Moussouga, vous ressentez cette nécessité?
Clairement, oui, mais avant tout, j'aimerais parler de mindset.
Une traduction en français?
Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit, la disposition à penser autrement ou à voir les choses autrement. Avant de répondre à votre question sur le financement. Quand on parle de financement, ça veut dire entrepreneuriat. Okay. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que les jeunes ont une vision faussée de l'entreprise. Ils ont une vision où ils attendent quelque part, même s'ils se battent, ils attendent ou ils espèrent qu'ils auront tout le soutien, l'accompagnement et que cette démarche de trouver de l'emploi, ils s'attendent à une certaine aide. Alors que la réalité n'est pas la même. Alors, ça va obliger un certain nombre d'entre eux à chercher à créer une entreprise, à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est là que vient le mindset de changer. On a prévu de faire, par exemple, du tourisme. Eh bien, il n'y a pas d'opportunité dans le tourisme. Il faut avoir l'état d'esprit et l'agilité pour se remettre en question et essayer de se réorienter. C'est aussi une responsabilité. Alors, en parlant de financement, de la microfinance ou des choses très simples, ça tourne assez bien, de manière générale. Mais pour réellement créer une entreprise, on est encore loin du compte. Aujourd'hui, les taux qu'on observe sont quasiment rédhibitoires pour un jeune aujourd'hui. Sans trop me tromper, on est au-dessus de 7-8% dans nos régions. Pour un taux. Alors, vous imaginez déjà un financement et pour un jeune qui démarre, il faut croire en lui, il faut qu'il ait un projet.
S'il n'a pas d'apport, s'il n'a pas un membre de la diaspora qui l'aide.
C'est pas possible. C'est une réalité. Alors, l'une des façons, c'est de commencer à réfléchir à créer des pépinières d'emploi où, en fait, on va accompagner le jeune, déjà en termes de formation, parce qu'entreprendre, c'est être formé, c'est comprendre ce que c'est. Et c'est là où je reviens au terme de mindset. Okay, donc, il faut avoir l'état d'esprit et la formation. Et ça, c'est quelque chose qui doit être intégré à la formation des jeunes au niveau du bac et après. Il faut avoir l'état d'esprit, c'est quelque chose qui manque, puisque cet état d'esprit n'est pas présent et derrière, on n'a pas l'attitude et le comportement qui va avec. Pour aller chercher des financements, il y a beaucoup d'obstacles. Il faut que le jeune soit préparé psychologiquement à affronter ces obstacles. Donc en termes de financement, je dirais qu'il faut créer un tissu, encore un tissu où il y a des opportunités. Il faut cet accompagnement, cette pépinière. Et il faut vraiment associer le secteur privé, les banques, l'État, les entreprises pour les aider justement à développer des entreprises qui servent au privé.
Naïeb Attili, on parle du financement, donc on parle des banques. Est-ce qu'une institution comme la Banque mondiale peut avoir un rôle pour favoriser l'économie réelle, pour aider, aider les jeunes ?
Absolument, à travers les États. À travers les États, et la Banque mondiale est le premier, organisme qui finance l'éducation aujourd'hui en Afrique. Rien que pour cette année, c'est 5 milliards de dollars. En Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc
l'éducation, c'est une chose, mais le financement de petites ou de moyennes entreprises...
De moyennes entreprises, on a une branche privée qui est la Société financière internationale, la SFI, qui finance et qui accompagne aussi les entreprises. Donc il y a des mécanismes. Et ce qu'on fait, nous, c'est vraiment à travers les États. C'est de créer les conditions pour que les États puissent accompagner justement les populations. Et ça se fait à travers les États et on a des programmes divers et variés qui font qu'aujourd'hui, je peux vous donner des exemples à travers l'Afrique, on est capable d'aller à une vitesse supérieure pour que les jeunes, parce que vraiment la jeunesse est au cœur de nos préoccupations et on ne peut pas développer ce continent-là sans investir massivement dans l'éducation, dans l'accès à l'emploi et dans la santé, la protection sociale. Parce que je pense qu'il faut voir tout ça de façon très holistique. On a tendance à voir l'emploi, la recherche d'emploi de façon un peu segmentée. Ces investissements doivent se faire de façon tout à fait holistique. Et c'est ce que la Banque mondiale fait à travers l'accompagnement qu'elle fait aux États.
Patricia Viringa-Guesquès, votre position sur cette question du financement des petites, des moyennes entreprises, j'imagine que vous rencontrez des jeunes Congolais qui ne demandent que ça, de se lancer, mais qui ont besoin d'argent pour ça.
Alors, je vais peut-être évoquer deux choses. Les jeunes Congolais, les jeunes Africains en général, ont besoin d'éducation, de formation, et ils ont besoin de financement. Mon collègue de General Electric disait qu'ils doivent être formés, il faut l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit, on le reçoit où ? On l'a où ? Au travers de la formation ? La formation, on l'a où ? Ben, on l'a éventuellement dans les études. Okay. Mais ces études ne sont pas adaptées. Alors, je parle maintenant, je reprends par rapport au côté Banque mondiale, financement, SFI et autres. Okay. Donc, on veut financer, mais on passe au travers des États. Je crois savoir, parce que je parle beaucoup avec mes collègues africains de manière générale, je crois savoir que les États africains n'ont pas changé beaucoup en 60 ans leur curriculum au niveau des écoles et des études, n'est-ce pas ? Alors, on finance les États qui forment et qui forment mal. Il y a forcément un problème. Alors, si on pouvait mettre les 5 milliards, si on peut mettre une grosse partie des 5 milliards au travers d'organes du secteur privé, on le ferait. Comment ça se fait que moi, aujourd'hui, je dois me débattre pour former les jeunes, pour qu'ils aient un travail ? Et je suis du secteur privé, et je le fais seul, et je m'essouffle en le faisant avec ces jeunes-là. C'est un problème. Vous voyez, le financement, pareil. J'ai même créé aujourd'hui une entité pour financer la PME, parce que quand vous regardez les organes qui existent, ils ont des tickets d'entrée qui sont absolument inatteignables, qui ne servent à rien. Je me permets de le dire, quand on a des tickets d'entrée pour des PME à 200 000 euros ou 200 000 dollars ou 250 000 dollars, mais quelle PME, vous savez, qui d'entrée de jeu va demander ce montant-là ? Les PME ont besoin de 20 000 dollars, ont besoin de 30 000 dollars, ont besoin de 50 000 dollars. Et là, il n'y a personne. Ou alors pire, quand il y a, on demande des collatéraux ou alors il y a des microfinances qui sont des usuriers. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Comment ça se fait que moi, au niveau où je suis aujourd'hui, n'arrive pas à trouver des financements, à trouver quelque part de l'argent, à avoir 1 million de dollars pour investir dans une centaine de start-up ou des PME qui veulent se lancer. Il n'y a pas ça. Je suis sur terrain depuis assez longtemps, il n'y a pas ça. Et c'est un problème. Donc je comprends la bonne volonté de tout le monde, mais à un moment, il faut qu'on se regarde un peu dans les yeux et qu'on se dise les choses.
Naïe Batidi, il faut vraiment miser sur les États ?
Oui, et il faut miser sur les États parce que, par exemple, des organismes de développement comme les nôtres créent un cadre et dans l'accompagnement, je pense que les investissements, par exemple, qui sont faits dans le domaine des infrastructures, aujourd'hui, nous avons vocation à faire doubler l'accès à l'électricité d'ici 2025. Et ça, c'est du concret. C'est du concret. Nous investissons directement dans l'éducation. Nous investissons dans l'accès à l'eau. Je veux dire, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il faut vraiment voir l'emploi ne peut pas être isolé. Il faut un cadre, et c'est dans la création de ce cadre. Mais aussi, il faut aussi penser à la sécurité. Nous sommes dans des pays qui ont besoin aussi de se développer pour faire arrêter cette montée. Moi, je pense aux pays du Sahel. Faire arrêter cette montée du terrorisme où on a combien de jeunes qui ne peuvent plus, qui n'ont comme seule issue pour emploi que d'aller rejoindre les djihadistes. Donc on a quand même là tout un travail à faire, un travail à faire, et ça c'est un travail collectif des gouvernements, des familles, des organismes internationaux et des individus que nous sommes. Donc il y a quand même tout un travail à faire pour que vraiment on sorte de ce cycle du conflit, de la Covid, mais aussi des défis climatiques et autres.
Alors, on l'a dit, en matière d'éducation comme dans d'autres secteurs, l'État ne peut pas tout faire. Et on va aller dans votre pays d'origine, Naïe Batili, le Sénégal, où le privé prend de plus en plus de place dans l'enseignement supérieur. Par exemple, le groupe Subdeco Dakar, qui se présente comme la première business school du pays. Depuis 1993, cette école ambitionne de former des cadres dans les métiers du management, dans les nouvelles technologies. C'est un reportage de notre correspondante pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Charlotte Hydrac.
Abdoulaye Sy,
cours de comptabilité sur l'un des campus de Subdeco Dakar avec le professeur Massek Ndiaye.
Nous sommes toujours dans le bilan, l'état financier.
L'école propose des formations dans différents domaines, transport et logistique, ingénierie informatique ou encore management public. Le rêve de Sorna Mariamambaye, 19 ans, monter sa propre entreprise dans le secteur du recyclage.
Après mon bac, j'ai considéré autant le public que le privé. Mais ce qui m'a le plus attiré vers Subdeco, c'était déjà cet accompagnement avec le Business Incubator, également avec le Career Center, qui permet de les insérer plus rapidement en entreprise. Ce sont des canaux rassurants qui nous disent que nous avons un avenir, en fait.
L'accompagnement vers le monde du travail, un plus qui a un coût. Après le bac, la formation à Subdeco Dakar sur concours d'entrée revient à environ 2 500 € par an. Mohamed Rassoul Diouf, en deuxième année, se sent privilégié et confiant.
Je ne me fais vraiment pas de soucis par rapport à l'avenir, d'autant plus que nous sommes souvent en contact avec le monde de l'entreprise. Par exemple, moi, cette année, je vais faire un stage et l'année prochaine aussi pour ma troisième année. Dans l'avenir, je me vois occuper un bon poste et je voudrais aussi créer à côté une association justement qui vise à promouvoir le monde du numérique au Sénégal, mais plus généralement en Afrique, je pourrais m'adapter n'importe où.
L'école compte environ 3 500 étudiants d'une trentaine de nationalités. Et l'une des priorités, c'est le lien avec les entreprises, explique Yasmine Sissar, directrice du développement stratégique du groupe.
Nous avons un taux d'insertion entre 90% et 92%. Dans le numérique, on avoisine les 98%. Nous avons un réseau important de partenaires, à peu près une centaine de partenaires entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, de quoi elles ont besoin? C'est clair, elles ont besoin de compétences. Donc, la participation des entreprises dans les curricula aussi représente un élément extrêmement important et ce qui permet aux étudiants, en intégrant l'entreprise, de ne pas avoir à être formés.
Actuellement, en troisième année, Rima Jali, elle, espère faire carrière dans l'événementiel.
Dans l'idéal, avec mon entreprise, je suis optimiste et pessimiste parce que je me dis que ce n'est pas non plus un secteur très développé ici. Ça peut être un challenge comme ça peut être aussi un risque en fait.
On lève la séance. Merci de votre attention.
Selon le ministère de l'économie, 200 000 jeunes sénégalais arrivent chaque année sur le marché du travail. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI.
Erika Moussouga a formé des cadres supérieurs. On l'a entendu, ça coûte cher.
Oui,
Oui, alors ce reportage, il est très intéressant. On voit bien qu'il y a deux vitesses. La dame parlait tout à l'heure de 2000 euros.
2500 euros à l'année.
Alors, il faut rester positif. Le fait que ce genre d'institut existe permet quand même de répondre à la question de la première partie de notre débat, qui consiste à une adéquation entre la demande du marché et la formation. Une formation de qualité qui permet aux jeunes d'accéder à l'emploi. On parlait d'un taux de plus de 90% d'intégration après leur formation. Ça veut simplement dire qu'ils ont eu des formations qui correspondaient à un besoin. Donc je pense que ça, c'est la partie simple du débat. Maintenant, le reste, les gens qui ne peuvent pas payer ces 2500. Ça veut dire, sans faire donner de leçons, il y a un vrai travail au niveau des États de réforme de l'éducation de manière générale. On doit savoir, si on a X milliers de jeunes qui sortent, quels besoins on a en face. Et cette question fondamentale, tant qu'elle ne sera pas adressée à juste titre, le problème de l'emploi, de la finance va rester. On ne peut pas former des gens et préparer des gens qui n'ont aucun avenir, c'est voué à l'échec. Et donc quand j'entends, et je vais parler du secteur privé, le rôle du secteur privé est de parce que seul, on doit être plusieurs pour être fort, est de se rassembler pour travailler avec l'État et définir un besoin dans différents secteurs. L'État doit se baser sur ce besoin dans ses programmes de formation. Si un jeune a envie de faire médecine, et il n'y a pas assez de médecins, je comprends, mais si un jeune veut faire, comme le disait, littérature, allez, soyons provocateurs. Quelle chance, quel avenir on donne à ce jeune en l'autorisant à se former en littérature? Je veux dire, il n'y a aucun avenir. Donc il va y avoir un travail de faire, de concert entre le privé, et le privé, l'État, par rapport au programme de l'État. Il faut inscrire ça dans un master plan, l'État des priorités. Il a une vision pour l'économie, il a des secteurs à développer. Et par rapport à ces secteurs, on définit des formations avec le secteur privé. Et on pourra ainsi absorber, en tout cas avoir un impact sur l'employabilité.
Patricia Veringa-Guesquès, rapidement, on a besoin de cette éducation à deux vitesses, avec aussi des formations pour des cadres supérieurs qui coûtent peut-être un peu plus d'argent, mais qui vont former des élites.
Oui, bien sûr. Sinon, après, on aura forcément un retard, on aura un problème. On est déjà dans un certain déséquilibre, il ne faut pas l'accentuer. Donc là où les jeunes peuvent se faire former à un meilleur niveau, tant mieux. On compte sur notre diaspora aussi aujourd'hui énormément. Mais j'ai envie de dire que la majorité sont ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Et peut-être juste une petite anecdote. Vous savez que la formation, enfin, le besoin où il y a le besoin en formation où c'est criant, parce qu'on en parle très peu, mais vu que je suis sur terrain et que j'ai pratiqué cela, c'est la formation sur, je n'ai pas le terme exact en français, mais life skills. C'est ce qui fait qu'en général, les jeunes n'arrivent pas à intégrer les entreprises parce qu'ils ne savent pas comment se comporter en entreprise et on n'y pense pas. Et en fait, j'avoue que moi, j'ai été prendre ce type de formation-là vers l'Afrique du Sud où il y a eu ce tel grand déséquilibre pendant autant d'années qu'ils ont dû créer ça. Et ça fait partie du système scolaire aujourd'hui pour leur permettre en fait de vivre et de travailler en entreprise.
Apprendre à se comporter, de connaître les codes.
Exactement, parce qu'il y a des codes en entreprise. Et alors souvent, les entreprises, je le vois même au Congo, vont se plaindre en disant « Oui, mais ces gens qu'on a engagés, bon, il y a la technicité, certes, mais on ne sait pas. Le jeune ne se présente pas, il n'appelle pas. Il ne sait pas vivre en entreprise, en fait. » Et ça, c'est aussi un autre problème. Donc, ce sont des formations qui sont très, très, très importantes et que, idéalement, si demain, l'État, ou si on donnait les moyens de nous-mêmes créer des centres, comme moi, j'ai commencé à faire, de créer des centres, eh bien, c'est ce qu'on va inculquer aux jeunes pour qu'ils soient employable, en fait.
Naïe Batili.
Oui, merci, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'au-delà, on a beaucoup de diplômés, mais on a très peu de jeunes qui sont employables. Et c'est ça le grand défi. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle ces soft skills, là aussi, savoir s'exprimer en public, savoir la communication, le leadership. On a besoin d'apprendre cela. Et ce n'est pas que pour le secteur privé, mais c'est dans toutes les entreprises. Aussi bien le public, ou même quand on doit être son entrepreneur, on doit pouvoir négocier, savoir négocier et tout. C'est indispensable. Et je pense que c'est là où peut-être le système anglo-saxon a peut-être pris un peu d'avance par rapport au système francophone, où on a les beaux papiers, le parchemin, mais on ne sait pas encore ce qu'on porter. On n'a pas confiance en soi, parce que ça aussi, il faut le dire. On n'a pas confiance en soi. On est devant un employeur, on hésite, on balbutie. Alors que moi, je vois quand on fait des interviews à la banque et tout ça, on a quand même beaucoup plus d'anglophones qui arrivent, qui sont sur deux et tout. On a quand même et la barrière de la langue. Moi, je pense qu'il faut, de plus en plus qu'on ait des gens qui soient au minimum bilingues. Il faut qu'ils soient français, anglais, mais trilingues et qui parlent non seulement les langues locales, mais aussi plusieurs langues internationales. Et ça permet aussi une meilleure employabilité. Et ça se fait aussi à travers le numérique. On peut apprendre ces langues-là très facilement.
Et pourquoi pas apprendre le chinois?
Absolument.
L'un des défis aussi, c'est de faire en sorte que ces jeunes talents africains restent dans leur pays. Et c'est en partie le rôle de l'agence de promotion des investissements en Mauritanie. Écoutons sa directrice, Aissata Lam, interrogée lors de ce Choiseul Africa Business Forum par Olivier Roger.
Ce qu'on regarde beaucoup, par exemple, c'est avant d'octroyer un certificat d'investissement, il y a un certain nombre de prérequis. Au-delà de l'investissement, du montant d'investissement, c'est aussi la création d'emplois. Donc au-delà du nombre, moi je m'attarde beaucoup sur justement la qualité de ces emplois, le quota d'emplois locaux comparé aux expatriés, mais aussi la qualité des emplois locaux, s'assurer qu'on en a à chaque grade et qu'on s'assure qu'il y a ce transfert de connaissances qui est fait à tous les niveaux de gestion de l'entreprise. Et c'est vraiment comme ça justement qu'on s'assure de combler un petit peu ce gap d'employabilité des jeunes et de chômage qui est aujourd'hui un des gros challenges de notre continent.
Erika Moussouga, garder les talents en Afrique, ça n'est pas un vœu pieux?
Alors, je suis ravi qu'on aborde ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et je vais vous partager l'expérience de GE dans la région, notamment francophone. Alors, ce n'est pas un vœu pieux, mais il y a des conditions. Il faut vraiment que l'entreprise s'installe dans le long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à court terme. Dans le long terme, ça veut dire avoir une vision. Et permettre, donner la chance aux jeunes d'occuper tous les types de fonctions. Pour faire très simple, vous avez des fonctions commerciales, okay, des fonctions de support, des fonctions beaucoup plus techniques. Quand je parle d'énergie, des gens qui sont capables d'opérer une centrale thermique à différents niveaux de complexité. Et ces gens-là, en fait, vous les avez en Afrique. Par contre, il faut leur donner l'opportunité d'être confrontés à la vraie vie pour gagner en expérience. Et c'est là tout le défi. Ça veut dire qu'il faut anticiper pour avoir l'opportunité d'exposer ces jeunes que vous recrutez à différents projets. Et quand ils acquièrent l'expérience et la maturité, aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique, vous pouvez vraiment leur faire confiance et leur donner le champ libre.
Il ne faut pas qu'ils se fassent débaucher.
Non, justement, alors on va arriver à ce point. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, je vais dire, 99% de nos équipes qui sont des locaux. En Côte d'Ivoire, on a des Ivoiriens, des Béninois, des Camerounais. Voilà. On a principalement des locaux et c'est une fierté pour GE dans la région. Ça a été le processus d'investissement sur le long terme, de former les gens, de les garder. Alors, le problème de la rétention, hein, c'est un problème réel puisque quand ils sont formés, c'est des talents qui sont rares, qui ont une vraie expérience et on s'expose toujours dans ce cas de figure à ce que le jeune ou bien le collaborateur puisse essayer d'aspirer à autre chose. Encore une fois, ce qui va potentiellement le retenir, c'est la culture d'entreprise, ce que vous mettez en place parce que tout n'est pas lié au salaire. Donc c'est un travail de fond.
Moi, par contre, j'irais un peu en contre-fou. Je pense que c'est très bien qu'ils soient débauchés. Je pense que c'est très bien qu'ils bougent. Je pense que c'est très bien d'aller dans d'autres pays. C'est très bien qu'il y ait de la circulation, d'apprendre, d'aller vers d'autres univers et d'apprendre d'autres choses. Donc, pour moi, c'est une richesse, cette circulation. Donc, absolument, c'est très important que les jeunes voyagent, aillent dans d'autres pays, aillent dans d'autres continents et ils en reviendront. Ils reviendront de toutes les façons. Encore plus fort, encore plus riche et encore mieux formé.
D'autant que Patricia Viringa-Guesquès, les entreprises en ce moment, les entreprises en Europe, aux États-Unis et encore ailleurs, manquent de bras et de cerveau. La pénurie de main-d'œuvre, c'est d'actualité.
Tout à fait. Donc vous voyez très bien que l'Afrique est absolument incontournable. Alors peut-être qu'il faudrait être un peu moins hypocrite et mettre des programmes réels. Pourquoi est-ce qu'on laisse ces jeunes traverser les eaux, y mourir inutilement, pendant que c'est réellement une manœuvre dont l'Europe a besoin? C'est dommage. On pourrait vraiment exploiter ça, l'Europe et ailleurs. Et puis, il faut bien vous dire que, en fait, La mobilité, on ne va jamais l'arrêter dans le monde. Les gens vont toujours voyager, vont toujours bouger, vont toujours découvrir de nouveaux horizons. Mais ce n'est pas pour autant que les gens veulent absolument s'établir. Vous remarquerez bien que, en général, quand on régularise les papiers, on a déjà constaté ça de pseudo-migrants, disons, sur l'Europe et ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est rentrer au pays. Donc voilà, mais il faut comprendre ça et puis mieux exploiter les choses, en fait. Je représente d'ailleurs le secteur privé au sein du Global Forum sur les migrations, mais c'est une réalité. Donc puisqu'il y a un besoin, mais travaillons ensemble, faisons des échanges, faisons des vrais programmes pour que ces jeunes viennent, découvrent autre chose, prennent de l'expérience, soient exposés, et ils vont revenir et ils vont nous ramener ça, et c'est au bénéfice de tous. Ça permet à des entreprises françaises, par exemple, d'avoir des filiales de l'autre côté avec des gens qui comprennent leur mentalité. C'est important, c'est ce que les autres font. C'est ce que la majorité des autres pays, enfin, des continents, finalement, font. C'est très important, mais faisons bien les choses.
Je crois que toutes les personnes ici ont étudié ou travaillé à l'étranger avant de revenir en Afrique et de repartir. Donc je pense que tout le monde est d'accord sur ce point de la nécessité de la mobilité internationale pour les jeunes Africains. Merci. Merci à vous trois, Naïe et Batili, chef des relations extérieures pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale. Eric Amoussouga, directeur de la branche Afrique francophone de General Electric, et Patricia Veringa-Guesquès, directrice à Kinshasa, directrice générale de The Job Factory. Et comme vous le savez, on est tous un peu tristes depuis samedi dernier à RFI en général et au service économie en particulier. Stanislas Daichimier, un collègue formidable, nous a quittés. C'est assez difficile aujourd'hui de trouver les bons mots. Vous avez en tout cas été très nombreux à vouloir lui rendre hommage. Maïs Mouissi est analyste économique au Gabon et il nous a envoyé ce message.
Au moment où nous déplorons le départ de Stanislas Daichimier, je voudrais saluer la mémoire d'un grand journaliste. Un journaliste particulièrement intéressé à l'actualité africaine, aux évolutions du continent africain, aux évolutions économiques, sociales et politiques du continent. J'ai encore un souvenir vivace de la dernière interview que je lui ai accordée au mois de juin sur l'évolution de la situation au Gabon, de l'économie du Gabon, où nous sommes restés au téléphone quasiment 45 minutes, alors que l'interview ne devait durer que 1 à 2 minutes dans son sujet. Il était intéressé de savoir quelles étaient la situation en profondeur au Gabon, telle que vécue par les Gabonais, telle que regardée par la société, par les spécialistes, et il prenait le temps d'écouter. Je voudrais saluer cet homme qui a fait vivre l'actualité africaine à des millions de personnes dans le monde, dont le travail était reconnu par les interlocuteurs qu'il avait l'honneur d'interviewer.
Naïe Batili, je crois que vous voulez dire un mot. Vous avez été touchée, vous aussi, par ce décès.
Très touchée. J'ai vraiment beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un que j'ai connu dans mes fonctions ici à la Banque mondiale à Paris. Et Stanislas était d'un très grand professionnalisme, mais surtout d'une grande humanité. C'est un grand homme. Et toutes mes condoléances à sa famille, à son épouse, ses enfants. Qu'il repose en paix. Et comme on dit, je pense à ce poème de Birago Diop, les morts ne sont pas morts, ils sont partout, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans le vent, ils sont dans le souffle.
Merci. L'histoire continue. Vous pouvez commenter cette émission, rendre encore hommage à Stanislas Daichimier sur Facebook ou sur Twitter sur notre compte RFI Echo. Votre émission Echo d'ici, Echo d'ailleurs revient la semaine prochaine avec un invité de marque, Tidjane Thiam, le financier ivoirien qui, vous le savez, est l'un des envoyés spéciaux de l'Union africaine dans la lutte contre le Covid-19. Il sera le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Je l'interrogerai en compagnie de Julien Clémenceau sur ce qui fait l'actualité sur le continent, sur ses ambitions personnelles aussi. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur, qui nous a accompagnés ici à Nice, à l'hôtel Méridien, où se tient le Choiseul Africa Business Forum. Merci à l'Institut Choiseul qui a permis cette émission sans le soleil, aujourd'hui sur la Riviera. Portez-vous bien.